Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Maude Aigrin.
Bonjour, l'été est là, les beaux jours aussi, les grandes vacances approchent et avec elles, bien sûr, des promesses de soleil et de douces soirées, avec aussi cette année la crainte d'une nouvelle canicule, tant celle de l'an passé est encore présente dans tous les esprits. Alors on a beaucoup dit, beaucoup écrit sur l'été 2003. Bien sûr, la situation est plus qu'inquiétante, avec en tout premier lieu, on le sait, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, il semble nécessaire de replacer ce dramatique épisode de l'été 2003 dans un contexte historique, et pour le faire, Éclairage reçoit Emmanuel Leroy-Ladurie. Emmanuel Leroy-Ladurie, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes membre de l'Institut, élu, je le rappelle, le 24 mai 1996 à l'Académie des sciences morales et politiques, dans la section Histoire et géographie, bien sûr, car vous êtes un historien de renom, professeur émérite au Collège de France. Vous êtes connu pour vos très nombreux ouvrages, j'en cite quelques-uns, Les paysans du Languedoc, Montaillou, village occitan, Saint-Simon ou le système de la cour, ou encore Histoire du climat depuis l'an 1000, un ouvrage qui déjà était consacré aux évolutions de la météo depuis le Moyen-Âge. Et vous venez de publier aux éditions Fayard une histoire humaine et comparée du climat. Le premier tome, qui est depuis quelques jours dans les librairies, est consacré aux canicules et aux glaciers du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. Il suffit de lire ce livre pour prendre la mesure du travail considérable que vous avez accompli. Emmanuel Leroy-Ladurie, vous avez passé au peigne fin la météo de 6 siècles, pour le moins. La couleur du ciel, les températures de chaque hiver et de chaque été y sont répertoriées. Mais votre livre, cependant, ne se limite pas, point sans faux, à une accumulation de tableaux ou de courbes de température. Pas du tout, car comme le titre de votre ouvrage l'indique, vous avez voulu faire une histoire humaine du climat. Qu'est-ce que ça signifie, une histoire humaine du climat ?
Eh bien, quand je me suis lancé dans ce sujet en 1967 et même 1955, il y a longtemps que j'y travaille, c'était un demi-siècle de servitude, comme aurait dit Flaubert, j'étais le seul parmi les historiens. Maintenant, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ce problème et donc je ne peux pas prétendre être à la pointe du travail de recherche. En revanche, ce qui n'est pas toujours bien étudié, c'est l'impact. L'impact sur la malheureuse humanité ou l'heureuse humanité. Mmh. Et c'est donc ce que j'ai voulu faire.
Donc vous étudiez effectivement les conséquences du climat sur les hommes, sur la société. Vous avez aussi voulu faire une histoire comparée. Ça sera notre deuxième question. Comparée, c'est-à-dire vous avez comparé la France du Nord et du Centre, la France tempérée, avec quel pays ?
Eh bien, c'est l'histoire comparée à la manière de Marc Bloch, où on essaie de comparer ce qui est comparable. Donc la France du Nord et du Centre, on peut la comparer avec celle du Midi, mais les conditions du climat y sont un peu différentes, puisque dans le Midi, les facteurs de chaleur et de sécheresse sont beaucoup plus importants, tandis que dans le Nord, la chaleur peut être dangereuse, mais c'est davantage le gel et beaucoup plus la pluie, une pluie excessive, puisque le blé est un immigré, est un sans-papier, il arrive du Moyen-Orient, où il avait ses habitudes, et notre climat assez humide, il aime à moitié. Donc, point trop d'infos aquatique.
Donc, cette France tempérée, mais également l'Angleterre,
alors,
les
justement,
Pays-Bas.
Justement, oui, le bassin de Londres, l'Écosse, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne occidentale, la Scandinavie, les Suède, Norvège, Danemark, la Finlande, un peu l'Islande et l'Irlande. Voilà à peu près le champ du travail.
D'accord. Donc évidemment, je le disais en préambule de cette émission, on ne peut parler du climat aujourd'hui sans penser à la canicule de l'été dernier, cet été 2003 qui a vu la mort, je le rappelle, de 15 000 personnes supplémentaires par rapport à la normale. Alors, il ne s'agit pas évidemment de minimiser cette catastrophe. Cependant, Emmanuel Leroy-Ladurie, à la lecture de votre ouvrage, on est tenté quand même de relativiser quelque peu la gravité de cette canicule de l'été dernier. Vous pouvez par exemple nous citer un peu quelques années qui ont été très caniculaires dans les siècles passés.
Bien, oui, 1719, 1706, 1779, 1414, 1556, enfin, je ne sais plus. En réalité, cette canicule de 2003 avait son siège Sur la France, l'Espagne, et naturellement l'Angleterre était moins frappée, mais aussi l'Espagne et l'Italie.
Moins frappée que la France, l'Espagne
oui,
et l'Italie.
Oui, 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 la chaleur, le gros bloc de chaleur est sur la France, comme l'a montré M. Lutherbacher dans un article de Science récent. Et le cœur de la chaleur était sur le Val de Loire. Mm-hmm. Or, c'est une situation qui s'est déjà produite au XVIIIe siècle, notamment. Alors, on a eu 15 000 morts, ce qui est trop, évidemment. Mais enfin, dans une situation analogue, en 1719, on a eu plus de 400 000 morts.
Ce qui rapportait la population d'aujourd'hui.
Ce qui ferait 1 200 000 morts. Et je veux dire que les gens n'y ont pas prêté beaucoup d'attention. C'était des bébés. C'était souvent des enfants, des jeunes.
Au XVIIIe siècle,
oui.
D'accord.
Et je ne sais pas, moi je suis historien de la région, ça s'est passé sous la région, je n'ai jamais vu la moindre allusion à ce phénomène. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, le niveau des nappes phréatiques avait baissé, les rivières mm-hmm. étaient basses, les eaux étaient polluées. Alors évidemment, les gens un petit peu aisés pouvaient boire du vin ou de la bière, ou en Chine ça serait du thé, mais ailleurs il fallait bien boire de l'eau, et donc ils attrapaient des épouvantables dysenteries. C'était une épidémie de dysenterie, mm-hmm. 400 000 morts, 400 000 aussi en 1706, 200 000 en 1779, ça va déjà un peu mieux. Et franchement, d'imputer ça à M. Mattei me paraît pas très raisonnable, puisqu'effectivement, c'est la France qui a pris le choc.
Donc plus ça, c'est une spécificité française, finalement.
Non, c'est une spécificité de l'anticyclone des Açores, qui est remonté. Ben, quand il remonte, il faut bien qu'il s'arrête. Il va pas jusqu'en Écosse ou jusqu'en Islande. Et là, le cœur du système était sur le Val de Loire. Et ce qui est remarquable, c'est qu'au XVIIIe siècle, c'était déjà le Val-de-Loire qui trinquait, si j'ose dire. Mmh. Et si bien qu'il n'y a pratiquement pas d'essor démographique du Val-de-Loire au XVIIIe siècle, parce que régulièrement, ça recommençait.
Régulièrement une canicule, régulièrement des morts supplémentaires. Ouais. Est-ce que l'été dernier, la canicule a été différente de celle dont vous venez de parler ou pas?
Bah, elle a été du même ordre, peut-être pire, mais enfin pas forcément. C'est toujours des vendanges au 30 août, des choses comme ça. Mais c'est vrai, la canicule de l'an dernier, probablement, est lié en partie au moins à l'effet de serre.
Et c'est donc, ça sa spécificité, c'est que
oui,
ça n'est pas que le climat.
Les grandes canicules de 1540, de 1556, c'était simplement ce qu'on peut appeler la variabilité du climat. Mm-hmm. Si l'on admet l'effet de serre, moi j'y crois, mais enfin à Lyon on n'y croit pas tellement par exemple.
C'est-à-dire?
Je ne sais pas, il y a des savants à Lyon qui nient l'effet de serre.
Donc cet effet de serre qu'on ressent depuis 30 ans à peu près, vraiment douloureusement, il a pour spécificité par exemple l'été dernier des nuits aussi chaudes quasiment que les journées. Et ça
oui. C'est
différent.
Alors c'est différent, on n'en sait rien, mais enfin il semble en effet que dans les grandes canicules d'autrefois, ce n'était pas au même degré. Alors il y a certains auteurs qui pensent que, notamment M. Lutherbacher, que 2003 est vraiment une percée vers le haut de l'échelle thermique, et c'est vrai, je crois, pour la période 1500-2003, étudiée par Lutherbacher. En revanche, aux Pays-Bas, quelqu'un comme Van Engelen pense que pour le moment, mais ça va peut-être s'aggraver encore, nous ne faisons que retrouver les beaux étés du XIIIe siècle, les beaux étés de ce petit optimum climatique du Moyen-Âge, petit optimum médiéval qu'on peut appeler le POM, P-O-M.
Et qui va précéder, on va le voir par la suite, un petit âge glaciaire, au contraire.
Pour
finir sur cet été 2003, qui donc est différent en tout cas dans ses causes, c'est-à-dire sans doute l'effet des gaz à effet de serre, est-ce que vous pensez que les Français, notamment bien sûr, sont conscients du danger? Est-ce qu'ils le mesurent ou est-ce qu'il va falloir qu'ils soient confrontés à des dizaines de canicules de cet ordre-là?
Alors, ils sont différents dans ces causes, oui et non, parce que malgré tout c'est quelque chose de répétitif, mais ça tend à devenir plus fréquent puisque les années 1990 ont eu un certain nombre de très beaux étés chauds. Alors les Français conscients, nous sommes tous conscients du problème, mais ça ne nous empêche pas de rouler en voiture, donc le problème est là, c'est que, on nous annonce 2% de croissance de plus, tant mieux, ça permet de lutter contre le chômage, contre ci ou ça, mais c'est un peu plus de pollution. Donc toute la logique de la civilisation moderne pousse à l'effet de serre. Alors quand est-ce qu'on pourra arrêter ce train lancé à toute vapeur? Je ne sais pas.
Oui, puis là on essaye de lutter contre les 4x4, on voit déjà combien c'est difficile, lutter contre la circulation en voiture, oui. c'est quelque chose de possible selon vous? Un gouvernement peut s'atteler vraiment à cette cause-là?
Oui, mais il faudrait une sorte de régime fasciste. Or malheureusement, c'est très joli ça, mais le dictateur devient rapidement gâteux et à ce moment-là ça tourne très mal. Donc moi je suis démocrate parce que comme disait Churchill, la démocratie est le plus mauvais de tous les régimes à l'exception de tous les autres. Mais c'est vrai qu'en démocratie, il est difficile de dire aux gens, bah, écoutez, prenez votre vélo, etc. Et ce qu'on peut essayer, c'est de faire des voitures moins polluantes, c'est de limiter les dégâts.
La solution est à la source, finalement. Oui, oui. Alors, nous avons donc vu que cet été caniculaire de 2003 était loin d'être un phénomène isolé. Il a été précédé par de très nombreux épisodes, au moins équivalents, au cours des siècles passés. Et donc, il convient maintenant d'y revenir. Des siècles donc, que nous allons parcourir et revisiter sous l'angle météorologique, comme vous l'avez fait dans votre ouvrage, je rappelle son titre, Une histoire humaine et comparée du climat. Le premier tome est consacré aux canicules et aux glaciers du XIIIe au XVIIIe siècle. Alors, je vous propose donc de suivre votre raisonnement, Emmanuel Leroy-Ladurie, c'est-à-dire d'analyser les différentes conséquences, les différentes répercussions, en clair, les différents effets du climat sur la société et donc sur les hommes. Et bien sûr, ce à quoi on pense en tout premier lieu, ce sont les conséquences du climat sur les récoltes. C'est vraiment la première sonnette d'alarme.
Oui. Alors, sur le vin, le vin aime bien les canicules. Ce sont des bons vins, souvent des récoltes abondantes. Un été chaud, par exemple, renforce le boisage de la vigne et permet d'avoir une bonne récolte, éventuellement la même année et aussi l'année suivante. Mais enfin, ce qui était le plus important pour les gens autrefois, c'était le blé, le seigle, les céréales. Alors là, je le disais tout à l'heure, les céréales, surtout le blé, viennent du Moyen-Orient et donc elles aiment bien un bel été chaud à condition qu'il y ait un minimum de pluie. En 2003, par exemple, là où il y a eu un peu de pluie, les récoltes ont été bonnes. Ailleurs, elles ont été diminuées.
Un minimum, mais surtout pas trop de pluie. Hein.
Et alors non, c'est ça. Et puis d'autre part, le blé... Le froment craint le grand gel hivernal, comme on dit 1609, à moins qu'il y ait une bonne couche de neige qui protège. Mais le principal danger, c'est l'excès de pluie, pluie d'hiver, pluie du printemps, pluie d'été. Et là, j'ai une expérience personnelle. Mon père était agriculteur. À l'époque, il n'y avait pas de moissonneuse batteuse. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, avec une moissonneuse batteuse, une moisson, vous la rentrez en un jour et une nuit. Avec les phares. Alors, les Parisiens.
On peut réagir dans l'urgence aujourd'hui, ce qu'on ne pouvait pas faire avant.
Bon, la moissonneuse batteuse avale bien quelques renards, mais enfin, ça marche. Mais à l'époque, les gerbes, comme sur les tableaux de Bruegel, les gerbes séchaient sur le champ et quand il pleuvait, ça pourrissait. Et donc, moi, ces étés m'ont beaucoup frappé, étant enfant, et c'est une expérience que j'ai remise, que j'ai reproduite dans ce livre, étant normand. Évidemment, j'aurais été Toulouse, par exemple, le blé est davantage sensible à la chaleur. Alors, quelles sont les grandes famines de pluie? Ça revenait régulièrement.
Donc, les famines, c'est-à-dire les très mauvaises récoltes causées par des pluies trop abondantes.
Oui, alors, la plus connue, c'est 1315, qui se place au début du petit âge glaciaire.
Donc, après une période qui a été plus douce, on entre à partir, effectivement, du début du XIVe siècle.
Alors, à partir de 1303, on voit les hivers sont plus rudes. Et puis, naturellement, le petit âge glaciaire ne commence pas le 1er janvier 1303 à 0 heure.
Hein. Oui.
Il y a eu une préparation. Et puis, il faudrait dire deux mots du reste des glaciers. Et donc, en 1315, on a vraiment des déluges, enfin des saisons très pluvieuses et des récoltes très, très diminuées. Non seulement les céréales, mais aussi le foin qui est pourri. Donc, on n'a pas de solution de rechange. En outre, ça concerne depuis la Baltique, pas la Méditerranée quand même, mais jusqu'à mettons, au Massif central. Et vraiment une grosse famine. Faut-il imaginer 1 million de morts en France? Dans le territoire actuel du de la France, c'est fort possible.
C'est crédible.
Alors, qu'est-ce que font les gens? Essentiellement, l'arme principale, c'est la prière, je crois.
Parce on va effectivement y revenir dans les armes que vont mettre en place la population pour essayer de combattre un peu ce mauvais climat. Mais restons sur cette année 1315 pour essayer un petit peu d'expliquer qu'un mauvais climat a des conséquences tout à fait immédiates sur la récolte, mais également dans la durée. L'année de 1315 n'est pas la seule qui va souffrir d'un mauvais climat.
Alors nous avons ensuite les années 1340. Qui sort avec des étés assez pourris, très froids. Et on ne peut pas exclure, mais là on pédale un peu dans la choucroute quand même, que la peste noire, qui est une peste non pas bubonique, mais pulmonaire, une peste très dangereuse, ait été facilitée par les maladies des bronches et pulmonaires que disséminait un climat quelques années assez froides. On a la famine de 1374 qui va jusqu'à la Méditerranée parce que les pluies se sont étendues vers le sud. Les guerres de 100 ans n'ont rien arrangé, puisque par ailleurs, l'agriculture était très gênée par la guerre. Et si on a une famine de canicule, qui est 1420, où l'on voit ces pauvres enfants, à Noël, il n'y a plus de blé, il fait froid à nouveau à Noël, et qui sont sur les fumiers de Paris et qui crient « j'ai faim, je meurs de faim », parce que sur le fumier, on n'a plus chaud.
Alors, je reçois Emmanuel Leroy-Ladurie. Nous évoquons avec lui son tout dernier ouvrage « Histoire humaine et comparée du climat », publié aux éditions Fayard. Nous nous retrouvons après une première pause.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
On retrouve Maude Aigrin.
Nous reprenons le cours de notre émission. Éclairage reçoit Emmanuel Leroy-Ladurie. Avec lui, nous revenons sur son tout dernier essai intitulé « Histoire humaine et comparée du climat », dont le premier tome consacré aux canicules et glaciers du XIIIe au XVIIIe siècle vient d'être publié aux éditions Fayard. Alors, monsieur Emmanuel Leroy-Ladurie, vous venez un petit peu de nous décrire un certain nombre d'étés pourris, d'années très pluvieuses, d'hivers très froids qui sont très douloureux pour les récoltes. C'est dont souffre finalement en tout premier la population, mais vous en avez un petit peu parlé également. Ça a des graves conséquences sur la santé de la population. Pas seulement la récolte, ça c'est une conséquence directe, la récolte, et finalement une conséquence plus indirecte.
En cas de famine, on peut mourir de faim. Ce n'est pas, la cause de mort principale. D'abord, prenons un grand hiver, 1709, qui est le plus grand hiver connu, depuis 1500 jusqu'à nos jours. Eh bien, il y a des gens qui meurent de froid, si on veut, en tout cas des maladies que procure un grand froid dans des maisons pas bien chauffées ou tout simplement ils sont...
Et là, on imagine bien qu'il y a des inégalités, notamment sociales.
Et alors, un Jean-Bray Duval, qui était un petit mendiant, qui plus tard est devenu bibliothécaire, raconte qu'il s'est un paysan, il l'a installé dans le fumier de sa ferme, ce qui lui a permis de se réchauffer un peu, et puis il s'en est sorti comme ça. Mais ensuite, le gel tue les semences, anéantit, pas totalement, mais enfin en partie la récolte, et donc les gens ont plus le choix entre plusieurs espèces de morts. Ils peuvent mourir de faim, c'est pas si fréquent que ça, mais enfin dans des cas extrêmes, on a vraiment des textes qui disent les gens meurent de faim.
C'est pas si fréquent parce que finalement ils trouvent des produits de substitution, on pourrait dire. Comment est-ce qu'ils arrivent?
C'est pour mourir de faim, il faut s'appliquer. Il faut quand même rester sans manger pendant, je sais pas, peut-être plusieurs semaines. Enfin, donc c'est quand même un peu exceptionnel. Mais surtout, la pauvreté, la misère affaiblit les corps. Et les épidémies, typhus, dysenterie aussi, se répandent, et même variole, parce que les mendiants sont sur les routes et propagent les épidémies. Et si bien qu'on a une grosse mortalité épidémique qui dure du reste après la famine. La famine se calme vers le mois de juillet, si tout va bien, avec la récolte suivante, à moins qu'il y ait deux mauvaises années. Et les épidémies continuent encore pendant peut-être quelques mois ou un an.
Donc ça, c'est un effet néfaste qui est plus sur la durée, dont on voit les conséquences plus longtemps.
Alors, on a des chiffres là assez solides. 1600, la grande famine de 1693, c'est 1 300 000 morts dans une France de 20 millions d'habitants, ce qui ferait aujourd'hui 3 900 000, c'est beaucoup plus que la guerre de 14. L'hiver de 1709, c'est seulement 600 000 morts, ce qui ferait 1 800 000 morts. Donc là, les gens y ont été sensibles, alors que la dysenterie de 1719, c'était pas médiatique, c'était pas spectaculaire. Il est frappant du reste que la grande famine de 1562, qui quand même a dû faire, je pense, enfin pas loin de 500 000 morts quand même. Les historiens ont surtout fait attention au voyage de Catherine de Médicis et de Charles IX, du tout à leur tour de France, un peu comme si aujourd'hui il y avait 3 millions de morts en France et qu'on parlait surtout du Paris-Dakar, si vous voulez.
Donc on le voit, des gens qui meurent de faim, mais qui finalement ne sont pas la grande majorité, des gens qui meurent parce qu'ils sont malades, atteints de dysenterie notamment. Donc il y a une baisse démographique alors qui s'en suit forcément.
Oui, mais enfin, ça fait partie malheureusement de la régulation. C'est-à-dire, ce qui a vraiment fait diminuer la population, c'est un phénomène non climatique, c'est la peste noire, les pestes compliquées de famine, qui ont fait passer la population de la France de 20 à 10 millions d'habitants au XVe siècle. Mais sinon, la famine rabote la population. Alors, on perd 1 ou 2 millions de personnes et puis on les récupère en quelques années et la population est à peu près stabilisée.
Est-ce que parallèlement à ces morts, on assiste à une baisse des naissances, à une baisse des unions?
Alors,
même
il y a surtout une baisse des mariages parce qu'évidemment, les gens sont prudents. Ce n'est pas le moment de se marier. Attendons un an ou deux. Et ça, c'est quelque chose qui dure bien alors que la mortalité de famine va diminuer ou presque disparaître. Après, il n'y aura plus qu'au lieu d'un million de morts, il y aura peut-être 20 000 au début du 19e siècle. En revanche, la baisse des mariages, c'est un fait psychologique, donc ça, c'est très, très net. Et puis la baisse des naissances, un peu par contraception, ce qu'on appelle le coitus interruptus.
Donc déjà, un certain contrôle des naissances.
Un petit peu, et bien surtout, affaiblissement des corps, des femmes, aménorrhée de famine, abstention. Et ce n'est évidemment pas très convenable à raconter, mais enfin, en 1740, il y a un curé, peut-être un peu obsédé sexuel, qui raconte que les hommes se soulagent avec leur bétail. Et les épouses leur disent gentiment, enfin écoute, tu exagères. Le type répond, bah, écoute, je ne vais quand même pas te faire un enfant en ce moment. Ça serait une catastrophe.
Ça ne serait pas raisonnable.
Le curé est un peu confabulé, mais enfin, il n'y a pas de raison de ne pas lui faire confiance. Moi, je trouve que les curés étaient très proches des villageois.
Oui, ça, on va tout à fait y revenir.
Des choses intéressantes. Oui.
Donc, une baisse des naissances. Et puis, là-dessus se greffe également, sur tous ces siècles, des guerres considérables qui ont des effets finalement encore amplifiés par ce mauvais climat, par ces mauvaises récoltes, par ces corps affaiblis. Vous le dites très bien dans votre livre, hein, que finalement, les soldats sont en moins bonne forme aussi.
C'est-à-dire, nous prendrons l'exemple de la...
Vous parlez notamment des guerres de la guerre de Hollande.
Oui, je pensais à la famine de 1315 où le roi Louis X le Hutin n'a pas fait, d'après presque rien fait contre la famine, mais il a quand même pensé à ravitailler ses troupes. Et en général, les armées, soit l'armée anglaise à la frontière d'Écosse, soit l'armée française à la frontière de Flandre, étaient quand même souvent assez mal ravitaillées. On a pas mal d'émeutes de soldats, du reste, qui attaquent les boulangeries. Mais enfin, quand même, quand on est dans l'armée, on a une petite chance d'être nourri et les guerres et les famines donnent beaucoup d'engagement dans l'armée.
Donc il vaut mieux être dans l'armée finalement que dans les campagnes. C'est quelque chose dont vont souffrir les paysans. Il va y avoir certaines
alors,
rancœurs.
Le paysan riche, le grand laboureur, il s'en sort bien. Puis même, il vend souvent assez bien son blé, qui est plus cher. Mais en revanche, l'État, de plus en plus, essaie de ravitailler les villes qui sont dangereuses, qui pourraient devenir révolutionnaires. Il se désintéresse des campagnes. Or, dans le monde paysan, beaucoup de paysans ne produisent pas assez de blé, ou bien ils en achètent. Et ceux-là sont victimes des famines parce que on s'occupe pas d'eux, quoi.
Très bien. Alors on va passer. Vous venez déjà un petit peu de l'évoquer aux diverses conséquences que peut avoir maintenant le climat sur la psychologie des hommes, sur leur morale, on pourrait dire. Alors on imagine bien que la population qui a faim dès lors que la famine est là, elle cherche un responsable, elle cherche quelqu'un qui pourrait expliquer pourquoi tout va si mal. Et alors, en lisant votre livre, là, on découvre des choses vraiment passionnantes, des croyances populaires qui sont tout à fait incroyables, on peut le dire. Par exemple, les sorcières qui sont tenues pour responsables de la mauvaise météo. Vous parlez de sorcières grêleuses. Est-ce que vous pouvez un petit peu raconter cet épisode-là?
Alors, c'est un historien allemand qui a mis en rapport les sorcières fabricant de la grêle, des tempêtes, avec le petit âge glaciaire. Sans aller si loin, disons qu'il y a les gelées de printemps sur la vigne, ou sur le blé, mais surtout sur les vignes, qui sont assez fréquentes, et on accuse volontiers des sorcières, on les accuse des orages aussi. Et il n'y a pas de doute qu'au moment grave du petit âge glaciaire, fin 16e siècle, on a brûlé pas mal de sorcières à cause de ça, surtout en Allemagne. Alors, il y a des différences. Par exemple, en France, le Parlement de Paris, qui est éclairé, ne croit pas que la sorcière fait de la grêle, mais pas mal de juges croient quand même qu'elle peut attaquer le bétail. En Allemagne, on a brûlé des sorcières par dizaines ou par centaines parce qu'accusées de faire de la grêle. Parfois aussi...
La grêle, c'est quelque chose qui a quelle connotation finalement psychologique?
C'est quand même... Localement, c'est assez dangereux. Il y a en particulier un poète, Jasmin, un poète d'Agen, un garçon coiffeur, qui a fait un poème à ce sujet. Et quand même, la grande grêle du 13 juillet 1788 est une des innombrables causes de la Révolution française, puisqu'elle a contribué à détruire quelque peu la récolte de blé de 88, affectant ainsi le ravitaillement de 88-89 et créant un mauvais climat pour le début de la Révolution française, un climat de mécontentement. Alors, les sorcières, oui, sont accusées de faire de la grêle.
De détraquer le climat.
De détraquer le temps. Alors aujourd'hui, on attaque plutôt le CO2, le méthane.
C'est un autre bouc émissaire. il y a donc une croyance très populaire de voir dans les sorcières les maîtresses de la météo, de la pluie, du soleil, etc. Si on remonte encore un peu le temps, et là on s'éloigne du XVIIe siècle pour remonter carrément jusqu'au XIVe siècle, là, vous racontez que dans les années 1303 à 1380, ce qui est vraiment la période du petit âge glaciaire à proprement parler, c'est-à-dire des hivers rudes, beaucoup de pluie, la population, là, elle est convaincue que le mauvais temps est un châtiment venu d'en haut.
Ben, c'est toujours vrai. L'effet de serre, c'est un châtiment de notre excès de bagnolisation de société.
Mais là, on n'en tient pas Dieu pour responsable.
Non, mais le Dieu voiture, le Dieu... Bon, mais enfin, je pense que au XIVe siècle, il y a des émeutes de subsistance, mais assez peu. Et la réaction principale, c'est d'aller à l'église, de faire des pèlerinages, des processions,
de se tourner vers Dieu, combattre.
Vers la Vierge, vers les saints. Alors, je me rappelle, en 1976, il y a eu une sécheresse, et alors les paysans, enfin, les villageois, ont demandé au curé du village de faire des prières. Alors, il leur a répondu assez intelligemment. Il leur a dit, bon, ben, écoutez, si vous le souhaitez, je veux dire des messes et tout ça, mais attention, vos prières ne serviront pas forcément à faire de la pluie. Elles sont mises par Dieu dans une espèce de compte en banque et il peut très bien s'en servir pour autre chose.
D'accord.
Ce qui me paraît assez raisonnable. Et c'était, au fond, une forme de religiosité qui pouvait peut-être aider, effectivement, à arrêter la pluie, mais qui manifestait un état religieux de la société. Alors, ce qui se passe au siècle suivant, c'est alors la politisation.
Oui, juste avant d'aborder ce problème-là que vous abordez, vous, dans votre livre très très largement, donc on va vraiment s'y pencher de façon très sérieuse, toujours sur la religiosité, c'est vrai que le mauvais temps, finalement, c'est un peu un signe d'apocalypse. On le voit sur les tableaux qui représentent l'apocalypse, le ciel est noir, il pleut, il y a de l'orage. Est-ce qu'on peut imaginer ou pas que le clergé se soit finalement servi de cette menace du mauvais temps pour brandir la menace de la fin du monde ou pas du tout?
Non, pas sur le climat, je crois. La peste noire, oui, je pense que là, il y a eu un sentiment d'apocalypse. Parce que là, ce n'est pas 5% de la population qui meurt, ni même 10%, comme en 1315, mais c'est 40% ou 50% ou 33%. Donc là, il semble quand même que les thèmes de l'apocalypse reviennent. Ils sont du reste toujours présents dans la culture protestante des États-Unis, comme on peut le voir par les films de science-fiction où le président des États-Unis joue le rôle de médiateur vis-à-vis de Dieu. Enfin, il y a évidemment la vieille prière de la affamée peste et bello, de la faim, de la peste et de la guerre, protège-nous Seigneur.
Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Éclairage reçoit Emmanuel Leroy-Ladurie. Avec lui, nous revenons sur son tout dernier essai intitulé « Histoire humaine et comparée du climat », dont le premier tome, consacré aux canicules et glaciers du XIIIe au XVIIIe siècle, vient d'être publié aux éditions Fayard. Alors, monsieur Emmanuel Leroy-Ladurie, on était en train d'analyser les différences conséquences psychologiques que le climat peut avoir sur la population. On a vu qu'il a accusé les sorcières, ensuite il a tenu Dieu pour responsable, et puis quand même petit à petit, c'est l'État qui va être tenu pour principal responsable. On va, plus que par la prière, on va tenter de combattre la famine par la révolte, c'est oui. Ça. À partir de quand est-ce qu'on peut noter ces premières crises de subsistance, comme vous les appelez ?
Alors, il faudrait parler de l'État, on en parlera. Alors, les crises de subsistance, c'est un phénomène complètement canonique, c'est ce que j'appelle une fusée à 5 ou 6 étages. C'est-à-dire, vous avez un mauvais climat.
C'est le premier étage.
Oui, une mauvaise récolte, des prix qui montent, des morts nombreuses, des mariages en moins, des naissances en moins, et des émeutes de subsistance, surtout à partir du XVIe, XVIIe siècle, et une politique sociale de l'État, de l'Église et des hôtels de ville, des mairies des villes. Voilà, en gros, la fusée, je ne sais pas s'il y a 6 ou 7 étages, mais peu importe.
Comment on explique ce revirement finalement de la population qui cesse de voir en Dieu un responsable et qui prend conscience que l'État a peut-être son rôle à jouer ?
Alors, ça s'est fait progressivement. Vous avez Louis X le Hutin, qui est le roi de la famine, qui a duré un an, juste la famine. Il n'a pas levé le petit doigt, il n'a absolument rien fait contre la famine de 1315, parce que justement, il n'y avait pas d'État. Non, il ne pouvait rien faire, et par conséquent, personne ne lui en a voulu, parce que ce n'était pas son rôle.
L'État, comme on l'entend aujourd'hui au sens moderne du terme, n'existait pas.
Non, il y avait des chaînes féodales, il y avait quand même quelques hauts fonctionnaires. Donc la seule chose qu'il a faite, c'est, un, de vendre la liberté aux serfs, un certain nombre de serfs pour se faire de l'argent, parce qu'il avait besoin d'argent, le prix de la vie avait beaucoup augmenté à cause de la famine, et deux, quand même de ravitailler son armée qui était en Flandre. Alors, avec un peu Jean le Bon, et surtout Louis XI, qui est un roi vraiment important, comme vous savez, ça commence à changer. Et Louis XI essaie de prendre, à partir de janvier 1482, si je ne me trompe pas, essaie de prendre des mesures contre la famine née de la mauvaise récolte de 1481. Mesures assez, c'est plutôt ubu, ça va...
Lesquelles, par exemple ?
À la fois, il rend la liberté au commerce du blé...
Donc, interdit libre circulation,
oui, il interdit le stockage, il le recommande. Enfin, ça part un peu dans tous les sens. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est l'intention. Charles IX, lui, interdit de planter des vignes qui pourraient diminuer la quantité de terre en céréales. Là aussi, ça me paraît plutôt un coup d'épée dans l'eau ou un geste. Après, je ne vois rien d'important. Des gens comme Richelieu ou Mazarin n'ont pas levé le petit doigt contre des famines qui ont quand même eu lieu à leur époque. C'est Louis XIV et Colbert qui commencent à prendre les choses sérieusement en main.
Alors, il faut dire que Louis XIV, lui, son règne se situe dans une période particulièrement difficile que vous appelez le minimum de Mondaire.
Oui, oui.
Alors là, je pense que peut-être on peut se pencher un petit peu sur cette expression. Qu'est-ce que c'est le minimum de Mondaire ? À quoi ça correspond ?
De Mondaire. Alors, Spörer, qui est un astronome allemand, vers 1890, a découvert que le Soleil avait eu très peu de taches solaires pendant 70 ans, de 1645 à 1715.
Donc exactement le règne de Louis XIV.
Oui,
hein.
Enfin, c'est un pur hasard, bien sûr. C'est le roi Soleil sans taches, oui. Et les étoiles de type solaire ont en effet des espèces de petits infarctus, sans grande importance, de petits coups de faiblesse, comme ça. Et alors, un astronome anglais, Maunder, a republié Spörer et l'a plus ou moins mis sous son nom, tout en le citant, ce qui est peut-être pas très honnête, mais ça, c'est toujours le système des anglo-saxons qui s'approprient volontiers les découvertes des autres. Et si bien qu'on a appelé ça le minimum de Maunder, et le brave Spörer, qui était mort déjà, on lui a donné une fiche de consolation en lui donnant un minimum de tâches solaires au Moyen-Âge, minimum qui peut-être n'existe pas.
Enfin, donc les tâches solaires disparaissent, ou alors, en tout cas sont très diminuées. Qu'est-ce qu'il y a pour conséquence,
peut-être un refroidissement du climat dans le cas des petits âges glaciaires. Ça n'est pas vraiment prouvé. Il y a une chose qui est certaine, c'est que grâce à ce minimum de Maunder, qui a été largement discuté par les astronomes et les météorologistes, on a eu beaucoup d'argent pour faire des recherches sur le climat sous Louis XIV. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les historiens.
C'est une première, ça, ces recherches sur le climat ou bien est-ce que ça existait ?
Il y a eu d'autres recherches, mais enfin, là, ça a été développé de façon assez sérieuse. Par exemple, j'ai assisté moi-même un colloque qui allait du minimum de Maunder à l'effet de serre. Bon, alors voilà donc le minimum de Maunder. Sinon, sous Louis XIV, il y a quelques grandes famines. Il y a celle de 1661, mais il y avait eu d'autres famines avant où l'État n'avait pas fait grand-chose. Et là, Louis XIV a pris les choses en main. 1661, il semble qu'il y ait eu pas mal d'explosions, d'éruptions volcaniques dans les années qui ont précédé. Et les éruptions volcaniques, comme on le sait par le volcan de Tambora, dont on pourrait dire un mot peut-être si on a le temps, les éruptions volcaniques couvrent la planète d'un voile de poussière, diminuent le rayonnement solaire et créent ainsi des famines puisque les moissons ne mûrissent pas bien.
Même si c'est à des centaines, voire des milliers, des centaines de milliers de kilomètres, enfin, ça
s'il
a
il n'y a qu'une seule explosion. Oui, l'explosion de Tambora en 1815 a vraiment influencé l'Amérique du Nord, l'Europe, etc. Avec des disettes. Et enfin, on peut en reparler. Donc, il y a eu pas mal d'éruptions volcaniques avant 1761. Une famine, enfin oui, une grosse pluviosité, un temps couvert, des tempêtes. Et une famine qui a dû faire, quoi, j'imagine, peut-être 500 000 morts, puisqu'elle n'a pas affecté le sud de la France. Alors, Louis XIV et Colbert, très correctement, ont pris les choses en main. C'était les débuts de l'intendance, ce qu'on appellerait des préfets aujourd'hui. Et ils ont importé du blé de la Baltique, de la région de Bordeaux, qui n'était pas affectée, et de la Bretagne.
C'est un peu les premières mesures sociales, ouais, entre guillemets ou...
Enfin, en tout cas, frumentaires, les premières mesures pour le ravitaillement. Alors, de la part de Louis XIV, il y a quand même eu une grosse faute de goût, qui a été les festivités du Carousel.
Tout à fait.
En avril.
Vous l'avez raconté, hein, donc il y a une grande fête qui est...
Avril, je crois, 1662. Et c'est au moment où le prix du blé est le plus élevé, qu'on a fait un magnifique ballet, dont il nous reste aujourd'hui l'arc de triomphe du Carousel, qui a été construit un peu après.
Et donc ça, évidemment, ça choque, oui, la population.
Non, pas tout. Enfin, peut-être, non, mais on ne l'a pas su. Mais enfin, là, il n'y a pas eu d'intervention populaire. Alors, progressivement, 1693, 1709, 1725, 1740, vous savez, je m'en fous comme de l'an 40, c'est pas, ça remonte peut-être.
Ça remonte à 1740.
Il y a une espèce de disette qui a eu à ce moment-là. Le gouvernement a très sérieusement fait son travail, mais du coup, les gens en voulaient au roi, parce que c'est comme aujourd'hui, l'État fait énormément pour la santé publique, mais on lui reproche de ne pas en faire assez. Puisqu'il en fait, donc il devrait faire plus.
Est tenu pour responsable celui qui essaie de réparer ou d'améliorer la situation.
Oui, alors il faut dire qu'il y avait des maladresses. Le blé qu'on importait était éventuellement pourri dans les cales des navires. On n'avait pas de bons silos comme aujourd'hui. On accusait le roi de vendre le blé pour s'enrichir, ce qui était, semble-t-il, faux. D'autre part, après tout, il prenait la place des marchands de blé qui n'étaient pas contents. Et la thèse du complot de famine, qui a été développée par un Américain, M. Kaplan, a pris beaucoup de consistance, et c'est une thèse tout à fait inventée, un peu comme le collier de la reine contre Marie-Antoinette.
Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une imputation aux politiques du mauvais climat, de la récolte, de la famine. Vous expliquez même que la Fronde, par exemple, a un lien. Évidemment, le climat, la mauvaise récolte n'est pas la première cause, mais c'est une pichenette en plus, vous dites.
Oui. C'est un élément provocateur, c'est ce qu'on pourrait appeler... Alors, c'est la politisation du climat, qui commence un peu avec la Fronde, mais surtout au XVIIIe. Et c'est aussi la longue marche du climat à travers les institutions, puisque peu à peu, les institutions s'occupent du mauvais climat.
Mais alors, au moment de la Fronde, quelle est la présence de ce spectre du climat?
La Fronde, bon, c'est une affaire avec les parlementaires, les grands seigneurs, le peuple mécontent aussi. Mais le peuple est mécontent aussi parce que les prix du blé sont élevés entre 1648, 1649, 1650, à la suite de trois années pluvieuses, je crois que c'est de parfaite clarté. Printemps, été, automne pluvieux, des années cycloniques et dépressionnaires. Le train des dépressions venues de l'Atlantique a dérivé vers le sud et donc traverse la France. On a des vendanges tardives et beaucoup de pluie.
Vendanges tardives, ça c'est un mauvais signe.
Les
vendanges, justement, peut-être peut-on en parler un petit peu. Le vin, c'est un révélateur. Vendanges tardives égale mauvais climat, égale mauvaise récolte. Quelle est l'importance du vin à cette époque-là?
Pas toujours, mais enfin, la vendange est déterminée par la chaleur du mois de mai, du mois de juin, par la chaleur de l'été et du printemps et de l'été, disons ce qui s'intercale entre mars et septembre, plus précisément entre le débourrage de la vigne qui est soit en mars soit en avril, quand la température dépasse 9 degrés centigrades, et la fin du mois d'août.
Donc entre mars et septembre, quel est le climat idéal pour des vendanges idéales?
Non, il y a simplement des régions où on peut faire de la vigne et d'autres où on en fait de moins en moins. Et bon, vous savez, la limite nord actuellement, c'est le vin de Champagne, oui, à peu près. Donc, Les dates de vendange, c'est pas du tout, il faut faire très attention pour les employés, mais enfin, souvent, les mauvaises années ont des vendanges tardives. Alors, on parlait de... Et en particulier, alors inversement, il y a la surproduction viticole. Par exemple, à partir de 1903, le réchauffement contemporain, qui n'est pas encore un réchauffement d'effet de serre, commence, qui est un réchauffement naturel au XXe siècle, des étés notamment. On a donc trois belles années en 1904, 1905, 1906, et c'est la fameuse crise de surproduction viticole de 1907 qui a donné lieu au mouvement des vignerons.
Bien sûr, avec une baisse des prix,
du midi,
par
exemple. Des prix qui s'écroulaient de 1907 et qui a créé le lobby viticole du midi de la Fronde, du midi rouge quelquefois.
Mais, alors on parlait de la Fronde et des conséquences psychologiques du climat qui finalement conduisent à la révolte sont un élément de ces révoltes. Il y a également la Révolution française, 1789. Vous y voyez aussi une conséquence d'un mauvais climat
alors,
en 88.
Oui, le climat, c'est ce qu'on pourrait appeler l'infratexte. C'est-à-dire ce qui est en dessous, c'est la politique, je continue son petit bonhomme de chemin, tout est politique, mais il y a aussi l'économie et par en dessous le climat. Et je m'étonne que les marxistes, qui croient beaucoup à l'influence des conditions matérielles de la production, ne se soient jamais intéressés au climat, qui est une condition matérielle, à l'exception d'Alain Croix en Bretagne et peut-être de Guy Bois en Normandie. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1788? Il y a l'automne de 1787 est très humide et les labours, les semailles sont difficiles. Ensuite, le printemps est un peu froid, ça s'irait encore.
Printemps
mais surtout
1788.
La fin du printemps et l'été sont très chauds et il semble bien qu'il y ait un phénomène d'échaudage, c'est-à-dire que le soleil grille le grain en lait. La récolte est loin d'être entièrement détruite, mais en fait, ça la diminue.
Donc, c'est une canicule. Il y a un indice dont vous parlez régulièrement dans votre livre, l'indice Van Engelen. Je ne sais pas si je prononce correctement.
Monsieur Van Engelen, un Hollandais, a fait des indices. Et effectivement, je crois que 1788, c'est l'indice 8.
Sur une échelle de 9, hein,
de
il faut
9,
le rappeler.
Oui. Donc, mais surtout, forte canicule. On a une vendange effectivement précoce, moins qu'en 2003, mais une vendange précoce. Et puis, il y a la grêle. C'est-à-dire que sur un fond d'anticyclone brûlant, il y a dû y avoir un courant froid, là, il faudrait, et une grêle qui a pas mal détruit. Enfin, le mois d'août 88, il y a des tempêtes et d'une pluviosité qui nuit au blé en gerbe sur le champ. Bref, c'est pas le désastre, mais enfin, une récolte diminuée, des prix qui augmentent et des émeutes de subsistance qui vont infecter, entre guillemets, toute la période fin 88, première moitié de 89, dégénérer en action anti-féodale et en grande peur. Et c'est là, dans cette atmosphère très difficile que se réunissent les États généraux. Donc je crois qu'il y a un rôle provocateur du climat.
Tout à fait.
Alors l'autre période également de provocation, alors il y aurait le volcan de Tambora, on pourrait en dire un mot si vous voulez.
Je vous en prie.
Oui.
Donc ça a lieu où exactement, quand...
Alors en avril 1815, le volcan de Tambora en Indonésie, à l'est de Java, explose. Et c'est le Mont Blanc à peu près, mais il passe de 4200 mètres à 2005 et 150 km. C'est la plus grande explosion volcanique connue depuis 10 000 ans, connue parce qu'il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, plus que le Krakatoa, etc. Un voile de poussière couvre une bonne partie de la planète. On dit que c'est le début du choléra en Inde, ça j'en sais rien. Et en France, enfin en Europe occidentale, les poussières donc, créent une année sans été, qui est l'année 1816, et mauvaise récolte. C'est pas une famine, mais c'est assez dur. Alors heureusement, en Russie, les poussières sont tombées déjà sur la France, et ils ont une récolte à peu près correcte, et on peut acheter du blé russe. Enfin, il y a les choses classiques, les émeutes de subsistance. Même en Amérique du Nord, en Floride et autres, la récolte de la canne à sucre est compromise. Et c'est aussi l'année où Mary Shelley est enfermée sous la pluie dans un chalet près du lac de Genève, en compagnie de, elle a 19 ans, je crois, de Shelley et de Byron, donc gens très distingués. Et c'est là qu'elle accouche du monstre le plus épouvantable qui soit jamais sorti de l'imagination d'une jeune femme, qui est Frankenstein. C'est là qu'elle écrit Frankenstein.
Oui. D'accord.
Enfin, s'il nous reste quelques minutes, on peut signaler le 1846 et 1848. C'est un de mes collègues
et
amis.
La révolution de 1848.
Alors, en 1846, il y a c'est de la canicule. Une année très, très chaude et très sèche. Je ne peux pas... Je vous dirais, en simplifiant, du mois de février au mars, au mois de juillet-août. Et donc, la récolte, là aussi, sans être détruite, est quand même très diminuée. Alors, on n'est plus sous Louis XIV, hein, il n'y a pas un million de morts. Mais enfin, beaucoup de pauvreté. Et puis surtout, les gens concentrent leur pouvoir d'achat sur le pain et donc cessent d'acheter du textile et ça crée une crise économique. Ajoutons, indépendamment de ça, la maladie de la pomme de terre en Irlande, 1 million de morts, là, c'est, l'Irlande c'est très dur.
Et ça aussi, ça a des répercussions sur tous les pays d'Europe.
C'est ça, mais la crise économique de 1847 et la révolution de février 1848 qui se répand dans toute l'Europe. Donc là aussi, il y a un élément provocateur du climat et puis par ailleurs la révolution. Je suis sur chemin à elle, qui est un
chemin. C'est l'effet du papillon, on peut dire, un battement d'aile à l'autre bout du monde. Par exemple, l'éruption du volcan Tambora en Indonésie provoque un mauvais climat sur l'Europe, des mauvaises récoltes, des crises de subsistance.
Mais c'est pas une aile de papillon, ça.
C'est plus qu'une aile de papillon. Effectivement, je reçois Emmanuel Leroy-Ladurie et nous évoquons avec lui son tout dernier ouvrage, Histoire humaine et comparée du climat, un ouvrage passionnant publié aux éditions Fayard. Nous nous retrouvons tout de suite après une dernière pause.
Toutes les générations se retrouvent sur Radio Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Radio Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves, plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les.
Maud Aigrin.
Nous reprenons le cours de notre émission. Éclairage reçoit Emmanuel Leroy-Ladurie. Avec lui, nous revenons sur son tout dernier essai intitulé « Histoire humaine et histoire comparée également du climat ».« Histoire humaine et comparée du climat », dont le premier tome consacré aux canicules et glaciers du XIIIe au XVIIIe siècle vient d'être publié aux éditions Fayard. Alors, Monsieur Emmanuel Leroy-Ladurie, en citant le titre de votre ouvrage, on vient de le dire, il est consacré aux canicules et glaciers du XIIIe au XVIIIe siècle. On a beaucoup parlé des canicules jusqu'à présent. Les glaciers, pourquoi vous êtes tant intéressé aux glaciers? On imagine bien évidemment qu'un glacier très étalé est le signe d'un climat plutôt froid, mais ça ne se limite pas qu'à ça, j'imagine, votre intérêt pour les glaciers.
Il est ancien, parce que étant plus jeune, j'étais assez sportif avec ma femme et nous avons pas mal travaillé sur les extrémités d'en bas des glaciers. Alors, les glaciers donnent une longue durée très approximative des tendances du climat, puisque si l'hiver est froid, mais surtout s'il est neigeux, le glacier est très nourri par le haut et va s'accroître. Et si l'été est chaud, le glacier a tendance à fondre, notamment dans les parties inférieures, et il tend à reculer. Si bien qu'une belle série d'étés chauds, jalonnés par des vendanges précoces, peut se traduire indépendamment par un recul des langues glaciaires.
Un recul des glaciers. Quels sont les glaciers que vous avez particulièrement observés?
Les glaciers des Alpes, à la fois la vallée, le Mont Blanc, la vallée de Chamonix, la Brenva du
la
côté italien.
Blanche.
Oui, et puis alors les glaciers suisses ont été très étudiés, ceux de Grindelwald, de Gorner et d'Aletsch.
Oui, le glacier d'Aletsch, il revient très régulièrement dans votre livre. C'est une échelle un petit peu pour mesurer les climats des années précédentes.
Voilà. Alors, nous pouvons à la fois suivre les glaciers et l'histoire longue du climat. Bon, les glaciers, il y a les âges glaciaires, ça, c'était pas mon problème. Mais disons que le petit optimum climatique, le POM, commence peut-être, va peut-être du 9e au 13e siècle, puisque des glaciers comme ceux d'Aletsch et de Gorner sont assez réduits, on le sait par les arbres qui poussent dans les moraines et qui ont manifesté à un moment où la forêt s'était réinstallée sur l'espace abandonné par le glacier, arbre qu'on date par le carbone 14, mais plus encore actuellement par la dendrologie qui permet de dater la mort, la naissance et la mort de l'arbre à l'année près.
Donc qui dit présence d'un arbre dit recul d'un glacier.
Oui, alors c'est Monsieur Holzhauser, un glaciologue de Zurich, qui a fait beaucoup de travail à ce sujet. Alors, le glacier d'Aletsch et de Gorner est bien mesuré au XIVe siècle et on le voit qu'il s'avance, comme dans un opéra, de 1300, mettons, à 1380.
Petit âge glaciaire que
alors,
vous décrivez dans
le premier petit âge glaciaire, jusque vers 1370-80. Ensuite, toujours étudié par M. Holzhauser, il y a un léger recul, un adoucissement du climat, et qui est manifesté aussi par des vendanges précoces de belles chaleurs entre 1415 et 1435. C'est ce que j'appelle un coin de ciel bleu ou encore une culotte de gendarme. C'est une expression, un coin de ciel bleu, oui, la culotte de gendarme est bleue. C'est l'expression qu'on trouve. Et aussi en Belgique, on dit une culotte de zouave. Oui. Ben de 1415 à 1435, mais avec quand même un inconvénient, qui est la grande famine de chaleur de 1420.
Mais donc finalement l'observation du glacier, ça vous permet d'avoir une observation à plus long terme,
oui,
de l'évolution des climats, ce que ne permet pas hein, les relevés, évidemment.
Un peu les arbres permettent, les dendrologies. Ben enfin, ça donne une idée grossière, mais une idée quand même. Alors, il y a ensuite un rafraîchissement, une nouvelle poussée des glaciers. Mais quand même, ils sont toujours beaucoup plus gros qu'au XXe siècle, du recul glaciaire. C'est le petit âge glaciaire. Et au XVIe siècle, c'est le beau XVIe siècle. Alors, les glaciers, il y a même des petits épisodes de recul. Et puis aussi, on a de très beaux étés de la première moitié du XVIe siècle. À partir de 1560, le climat se rafraîchit. C'est de l'ordre de 1 degré, hein, ça ne va pas très loin. Et une grosse avance des glaciers alpins à Chamonix. Alors là, c'est connu par les textes. On les voit littéralement, ces glaciers qui culbutent. Non pas des villages, de la mer de glace par exemple, mais des hameaux.
On a des premières gravures même.
Et on a des gravures, enfin on a des textes. Et à Grindelwald, la mer de glace, et Argentière, enfin les Bossons, etc. Et les glaciers, notamment à Grindelwald, restent très gros de 1590 à 1640. Ensuite, ils reculent un petit peu, mais c'est petit âge glaciaire. Ils sont beaucoup plus gros et on voit toujours la mer de glace dans le bas de la vallée, ce qu'on ne voit, ce qui n'arrive plus depuis longtemps. Alors, il y a des avancées, il y a des reculs, mais tout ça reste dans des... On a quand même de très gros glaciers. À nouveau, il y a une période de grosse maxima glaciaire entre 1810 et 1859. C'est la... Il y a aussi là le glacier, le volcan de Tambora a joué son rôle. Enfin, et puis, à partir de 1859-60, c'est le recul catastrophique des glaciers qui commence.
C'est une période charnière, 1860.
Pour les glaciers, oui. 1860, il n'y a pas de doute. Et jusqu'à aujourd'hui, certes, il y a des glaciers qui avancent, d'autres qui reculent, mais dans l'ensemble, c'est comme...
Dans l'ensemble, ils reculent.
Suffrage universel, il y a une majorité de glaciers qui reculent. Ce qui est curieux, c'est que le climat ne se réchauffe vraiment, d'après M. Lutherbacher, qu'à partir de 1903 et que les glaciers reculent dès 1860.
Pourquoi? Alors, comment on peut expliquer ce délai?
Je pense que c'est parce qu'il y a quand même de beaux étés chauds. Il y a des étés très chauds sous Napoléon III, superbes, et ça a dû donner un coup de recul au
glacier.
Mais
ça ne suffit pas finalement à réchauffer le climat de façon générale sur l'année.
Oui, il faut que les hivers se réchauffent aussi. En tout cas, à partir de 1903, c'est l'ensemble, la température moyenne qui a tendance à se réchauffer. Et puis à partir de 1950-1970, c'est l'effet de serre. Et là, on a un recul souvent catastrophique des glaciers, même s'il est vrai, et des glaciologues comme M. Vivian à Grenoble ne se privent pas de le faire remarquer, qu'il y a pas mal de certains nombres de glaciers qui continuent, eux, à avancer. Ça n'est pas tout simple, c'est comme un suffrage universel. Si
vous... Alors vous venez de le dire, un réchauffement que l'on observe à partir finalement du début du XXe siècle, hein, 1903, oui. Quand même... Près de 40 ans après les premiers reculs des glaciers, donc un vrai délai. Et alors le XXe siècle, c'est le beau XXe siècle?
Ben oui, il y a eu une belle jolie période, enfin qui n'est pas du tout jolie au point de vue des guerres et qui était plutôt catastrophée. Je ne pense pas qu'il y ait de rapport. Mais entre 1900 et 1960, avec un climat, mon Dieu, pas désagréable du tout. On passe à l'été aux étés très chauds de 45, surtout de 47, qui a fait 7000 morts, donc personne n'y a fait attention à l'époque.
Après la Seconde Guerre mondiale,
oui.
Effectivement.
Vous savez, il faut vous dire que combien de fois nous avons lu dans la presse, vague de chaleur à Chicago, 100 morts. Bon, personne ne songe à téléphoner à la Maison-Blanche à ce sujet. Ça, c'est l'esprit français. Il faut absolument que ça soit la faute du gouvernement. Bon, du coup, si ça incite le gouvernement à faire quelque chose, c'est bien. Mais en fait, c'est une caractéristique nationale, cette politisation du climat dont j'ai déjà parlé. Alors, et puis, depuis, quelle date précise? Je ne sais pas. Mais la température s'est stabilisée entre 1950 et 70, au point que certains ont pu parler d'un nouveau rafraîchissement. Et puis, depuis 1970, vraiment, les températures augmentent. Avec la décennie 1990, la plus chaude connue, avec les étés très chauds de 1992, 1994, 1995, 1997, 1999 et bien sûr 2003.
Mais jusqu'à 2003, pas tellement une politisation de ce climat, comme vous l'avez dit.
Alors,
c'est quand même la première fois l'année dernière.
C'est la nouvelle. Oui, pour
la
tempête, on n'a pas fait de reproche au gouvernement.
C'est tout à fait juste.
Et on n'est pas. La tempête, c'est pas évident que c'est en rapport avec l'orage. Peut-être, mais enfin, on n'arrive pas à faire le lien. Nous avons une grande spécialiste des tempêtes, une dame tempétologique, Madame Corvol, mais elle m'a donné sa chronologie. Je ne vois pas trop le rapport avec les grandes fluctuations du climat, mais c'est très intéressant. En revanche, en 2003, on assiste à une nouvelle politisation et à une exigence, peut-être légitime, d'intervention de l'État. Mais il faudrait aussi que les gens eux-mêmes se prennent en main, finalement.
Est-ce qu'en 76, il y a eu ce genre de réaction ou pas du tout de la population, de la part de la population française? Parce qu'on a comparé tout le temps 2003 oui. à 76. Est-ce que sur les comportements, c'est comparable?
Alors, il faut rappeler l'été très chaud de 1947, que Thomas Mann a passé en petite tenue sur son balcon dans sa maison de Zurich la nuit, ce qui tend à prouver que les nuits étaient peut-être chaudes, entre parenthèses.
Déjà.
Oui, mm-hmm. Ben, je me demande. Alors, il y a l'hiver de 1956 qui a gelé, comme en 1709, les oliviers en France et une partie du vignoble et qui a été des conséquences graves en Espagne. Je crois qu'il y a eu un gel des vergers d'olives. Enfin, il y a la sécheresse de 1976 qui, après tout, est peut-être un premier prodrome de l'effet de serre et qui a donné lieu à des gestes de solidarité entre agriculteurs, ceux qui avaient de la paille et du foin, surtout la paille, les apportant aux agriculteurs sinistrés des régions d'élevage. Alors, on a fait un impôt sécheresse, justement. On a beaucoup dit, mais tout ça est allé dans les lessiveuses, dans les caisses d'épargne des paysans. Enfin, dans beaucoup de cas, ça a quand même été utile à certains d'entre eux. Et puis, il a fallu donc la décennie 1990 pour arriver à des évidences maintenant.
Donc voilà, nous allons terminer sur cette note de solidarité. C'est finalement vers cela sans doute qu'il faut se tourner en tout premier lieu quand la canicule est là et qu'on ne la souhaite pas cette année. Voilà, c'est la fin de cette émission. Éclairage recevait Emmanuel Leroy-Ladurie que je remercie de sa venue dans le studio de Canal Académie. Je rappelle que vous êtes historien, que votre dernier essai est intitulé « Histoire humaine et comparée du climat » dont le premier tome consacré aux canicules et glaciers du XIIIe au XVIIIe siècle vient de paraître aux éditions Fayard.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.